Vous écoutez France Culture.
Bonjour Sylvain, le Salon Noir. Vendredi dernier, deux ventes de prestige se déroulaient au cœur du Triangle d'Or de Paris, avenue Montaigne. Ces ventes aux enchères d'art précolombien proposaient quelques pièces exceptionnelles, dont certaines issues de la collection de Jacques Kerschach. À noter une Vénus Choupi-Coirot, un masque funéraire Kalima, quelques têtes momifiées, le crâne de cristal dit Pépin, œuvre créée au XIXe siècle et connue à 13 exemplaires. Une plainte de l'État mexicain a entraîné en direct la saisie totale par un juge français de la vente orchestrée par Pierre Berger et certains objets, notamment mexicains, de la vente de Maître Binoche. Un mauvais coup aux arts américains, selon ce dernier, qui vivait pour la première fois cette expérience et espérait récupérer les objets archéologiques au plus vite. À l'occasion de la dispersion des autres objets, deux exceptionnelles spatules Taïno provenant de Saint-Domingue ont été préemptées au nom de l'État français pour le musée du Quai Branly. Dans l'attente d'une réponse de l'ambassade du Mexique en France, nous espérons pouvoir réaliser prochainement un sujet autour du statut des objets de fouille, de leur vente ou restitution au pays d'origine. Mais venons-en à notre sujet du jour avec Alix Barbet, directeur de recherche au CNRS, spécialiste incontesté de la peinture murale romaine. Alix Barbet, bonjour.
Bonjour.
Vous vous penchez aujourd'hui non pas sur les fresques antiques, mais sur les graffitis au travers d'une exposition à Lausanne intitulée « Les murs murmurent ». Alix Barbet, commençons peut-être par cette référence cinématographique dans la vie de Brian, chef-d'œuvre des Monty Python. Le héros appose un graffiti contre l'occupant romain sur un mur de Jérusalem ?
Oui, alors, il ne s'agit pas d'un vrai graffiti ou graffito, étant donné que le mot vient de graffiare et italien, qui veut dire gratter et gratigner. En fait, il peint. Il peint Romani ite domum. Non, en fait, lui, il écrit Romanes eunt domus.
Et alors, donc les Romains hors de...
C'est-à-dire US Gaum, oui, enfin, c'est-à-dire les Romains rentrez chez vous. Alors un centurion passe par là et lui file une claque en lui disant non, le latin correct c'est Romani ite domum, donc tu vas me le copier 100 fois. Et le voilà parti toute la nuit à peindre. C'est Romani ite domum, que ensuite les pauvres soldats romains seront obligés d'effacer. Donc c'est une anecdote drôle qui indique que de toute façon les graffitis sont souvent en mauvais latin. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de les lire. Alors, je suis effectivement venue à m'intéresser aux graffitis, mais c'est parce que ces graffitis-là sont sur des peintures murales romaines. Et il a fallu qu'on travaille à une équipe nombreuse d'épigraphistes et d'archéologues, avec un collègue suisse, Michel Fuchs, pour arriver à en tirer quelque chose.
Vous en avez collecté durant toute votre vie d'archéologue et Dieu sait si vous avez étudié la peinture murale et circulé donc en Europe, voire bien au-delà.
Justement, c'est parce que notamment à Zeugma, en Turquie, il y avait énormément de graffitis, de dessins et d'écriture, de textes, que je me suis dit qu'il fallait vraiment s'y intéresser de près. Et tout ce qu'on avait collecté en Gaule était très, très erratique. Très difficile à lire, mais enfin quand même, on en a rassemblé près de 90 exemples. ce qui est quand même intéressant, de toute la Gaule, plus la Suisse romande qui faisait partie de la Narbonnaise.
C'est-à-dire que quand il y a un graffito ou un graffiti, disons graffiti pour faire plus simple,
français,
plus français, sur la fresque, on ne l'efface pas, on le laisse quand on restaure cet objet.
Ah non, bien entendu, nous, on n'efface rien. En revanche, certains se sont amusés à effacer ce que les autres avaient écrit, puisque la caractéristique des graffitis, c'est son caractère spontané, mais une interaction des gens qui viennent les uns après les autres et qui font leurs commentaires à la suite les uns des autres.
Le graffito appelle le graffiti, appelle les graffitis.
Exactement.
Toujours est-il, des graffitis contestataires, il en existe par force à l'époque romaine ?
Absolument, et on en connaît un qui est tout à fait célèbre, et c'est grâce à Suétone qu'on a pu le savoir. Domitien avait la manie de construire des arcs honorifiques, bien entendu, à sa gloire. Et un passant a écrit en grec « archei », ce qui veut dire « il suffit ». Mais ça veut dire aussi en latin « archi », c'est-à-dire « des arcs ». Donc, pour ceux qui étaient connaisseurs et du grec et du latin, ils avaient tout de suite compris qu'il s'agissait d'une critique à l'égard de Domitien.
Ce genre donc de message est aussi fréquent, à part cet exemple, qui est bien sûr absolument très beau.
C'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours les allusions. C'est ça la difficulté, bien entendu. Mais tout de même, alors on aurait pu croire, par exemple, que ce qui a été trouvé à Narbonne, qui est un bon mot, nous étions très contents de venir ici, mais nous sommes encore plus contents de repartir. On aurait pu croire que c'était des gamins dans une salle de classe. Mais en fait, non. On trouve la même chose à Pompéi. Seulement à Pompéi, on a une troisième ligne qui dit « Mais nous avons été retenus par une jolie fille ». Donc, à Narbonne, ce n'est pas le cas. Mais ça veut dire que, sinon contestation qu'on ne peut pas prouver pour la Gaule, on a en tout cas des bons mots qui se répètent et qui viennent d'ailleurs.
L'archéologie, Alix Barbet, est victime d'un miroir déformant où les nantis et leurs vestiges sont démesurés. Avec les graffitis, nous pourrions enfin toucher l'ensemble de la société ?
Alors, sinon l'ensemble de la société, au moins ceux qui savent écrire ou manier un stylet. Donc, on a effectivement le quotidien de gens simples. D'ailleurs, on a quand même réussi à trouver 85 noms propres différents. Et rarement, il s'agit de personnes importantes, à part dans un temple où on a un personnage qui porte trois noms. Les autres n'ont qu'un seul nom, donc ce sont des gens assez modestes. On a même le nom d'un esclave qui s'appelait Rosias, à Mersin-et-Vaux, près de Soissons.
Alors, qui écrivait à l'époque romaine ? Bien sûr, peu de gens par rapport à aujourd'hui.
Peu de gens, mais des scribes. Pas forcément des lettrés, également des affranchis, des gens dont c'était le métier. Mais on a aussi des graffitis faits par des enfants. Et ça, c'est très intéressant. D'abord, on l'a grâce à la hauteur sur laquelle on peut les examiner, c'est-à-dire en dessous d'un mètre de haut. Et puis grâce à la morphologie de ce qu'ils écrivent. Alors, des petits bonshommes dont les bras sortent de la tête, ou bien un abécédaire, mal tracé, avec le C et le D qui rentrent l'un dans l'autre, ce qui fait que ça fait une boule avec un trait au milieu. Mais il faut faire attention, parce que la hauteur du graffiti ne suffit pas à nous donner l'idée de la personne qui l'a gravé. On a un exemple à Fréjus, dans un triclinium, c'est-à-dire dans une salle à manger, d'un poème écrit à 70 cm de hauteur, c'est-à-dire la hauteur habituelle où écrivent les enfants, qui en fait a été fait sans doute depuis un lit de triclinium pendant un repas. Donc c'est un peu difficile.
Le graffiti est bien sûr très répandu. Est-il interdit par le pouvoir ?
Ah, alors là, on n'a pas du tout l'impression que ce soit interdit. On en trouve quand même un peu partout, sur les murs des sanctuaires, par exemple, même des ex-voto, quelqu'un qui écrit en disant « j'ai offert à Maya et à Mercure telle chose à tel prix ». On a beaucoup dans les péristyles, en fait, là où il y a beaucoup de passages. Simplement, on peut noter, évidemment pour la Gaule, les peintures étant fragmentaires, on ne sait pas toujours de quelles pièces proviennent ces inscriptions ou ces dessins. Mais, par exemple, on a dans deux cas des comptes à Auxerre. On a un compte en denier. Et puis à Narbonne, on a carrément un menu. Alors on a pain, un as, sardine. Alors là, on n'a pas le compte. Huile, vin. Mais c'est écrit sur des fonds blancs, des fonds donc de murs simple de service. Et ça me fait penser à ce qu'on trouve en Italie, par exemple à Stabi, dans la Villa San Marco. C'est dans la cuisine qu'on a les comptes des provisions qui ont été écrits à cet endroit-là.
Le lieu où on appose sa marque est bien sûr significatif. Cela paraît quand même étonnant de faire quelques graffitis sur quelques très belles fresques. Est-ce que cela veut dire que, par exemple, ils sont réalisés à des moments où déjà le bâtiment est en situation de péril, par exemple, ou...
On n'a pas l'impression, parce que si on regarde Pompéi, on a plein de graffitis et les monuments étaient en exploitation jusqu'à la fin, jusqu'à à l'éruption du Vésuve. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Y a même des gens qui s'amusent à mettre des graffitis à un endroit qui veut dire quelque chose. Par exemple, à Lisieux, on a écrit une inscription en capitale sur un entablement fictif, comme si c'était une dédicace d'un temple, d'un vrai monument. Donc c'est un jeu. On s'amuse en utilisant même la peinture elle-même pour écrire à un endroit qui a une signification.
Alors là, vous me parliez de triclinium, de couloir, de salle à manger, de cuisine, et on peut bien sûr penser aux toilettes. Est-ce que l'on fait aussi des graffitis à l'extérieur, donc des bâtiments?
Oui, bien sûr. Notamment les galeries, justement, auxquelles je pense, sont des galeries extérieures dans les temples.
Pourquoi ce thème a-t-il peu intéressé les archéologues, Alix Barbet?
C'est extrêmement difficile. Et d'abord, ça exige de se réunir entre épigraphistes, archéologues, spécialistes de peinture murale et de travailler longuement et avec beaucoup de difficultés puisque c'est fragmentaire et que ça ne se lit pas facilement. C'est un peu comme une ordonnance d'un médecin. Si vous ne connaissez pas de quel médicament il s'agit, vous avez quelquefois du mal à lire les potions qui sont recommandées. C'est un peu la même chose pour les inscriptions que nous trouvons sur ces murs.
On en connaît combien? Vous en avez bien sûr, j'imagine, pas fait tout à fait l'inventaire exhaustif, mais si c'était fréquent, on peut penser que beaucoup ont disparu justement parce que les bâtiments que l'on retrouve sont le plus souvent arasés.
Oui, c'est évident. Donc on ne peut pas dire, mais il est certain que presque chaque maison devait avoir des graffitis. D'autant plus que les gens avaient l'habitude d'écrire, non pas avec un crayon qui n'existait pas, mais avec un stylet déjà sur des tablettes de cire. Donc ils avaient toujours un stylet à la main et ils pouvaient très facilement écrire ce qu'ils avaient envie.
Vous me disiez qu'il fallait plusieurs spécialistes pour étudier justement ces graffitis, donc l'épigraphiste.
Par exemple, on avait un graffiti en gaulois. Eh bien, tout le monde l'avait lu à l'envers. Et c'est le spécialiste de gaulois qui l'a mis dans l'endroit et qui a lu du gaulois. Donc, ce n'est pas évident. Monsieur Péribe-Lambert, notamment, pour le citer. Donc, ce n'est pas facile.
Parmi les dessins, les têtes sont visiblement les plus nombreuses à Pompéi, souvent des caricatures.
Alors, c'est l'exagération des traits saillants du personnage. Et alors là, on a un exemple tout à fait intéressant dans une scène de gladiature à Vaison-la-Romaine, où on a un buste d'un personnage vu de face, portant une barbe. Et il m'a semblé que c'était Adrien, parce qu'à côté, il y a la figure d'un jeune homme qui est sans doute Antinous, son favori. Et donc, on peut même dater le moment où cette scène de combat de gladiateurs a eu lieu, donc au IIe siècle, à Vaison-la-Romaine, puisqu'on sait qu'on transportait les bustes des empereurs pendant les cérémonies, au début des cérémonies dans l'amphithéâtre. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a d'autres portraits très, très rigolos. Il y en a un avec
Ça représentait un chauve avec une couronne de
fleurs. Avec une couronne de laurier. Donc c'était sans
personnage
doute,
sûrement illustre, non?
Voilà, sûrement important. Puis il y en a d'autres qui ont des têtes très étranges. Et c'est très souvent d'ailleurs un profil tourné à gauche parce que les gens étaient droitiers et que c'était plus facile de tracer à gauche. On en a quelques-uns avec des barbes, ce qui est rare. On n'en a pas à Pompéi, sauf quand ça a été mis à la mode par les empereurs au IIe siècle. Donc on en a pour la Gaule.
Je reviendrai sur les enfants. Ces petits abécédaires, ces petits dessins sont si fréquents?
Ah, il y en a énormément. Finalement, on en a à Périgueux, on en a à Néris-les-Bains, avec un petit bonhomme, justement, qui a une drôle d'allure. On en a trouvé également à Narbonne, et toujours très bas, hein, entre 1 mètre et 70 cm de hauteur.
C'est-à-dire...
Et puis, ils annonnent, hein, A, B, C, D, A, B, A, B, et puis le C, D leur pose des problèmes, c'est très amusant.
C'est-à-dire que l'enfant dessine bien sûr à sa hauteur, mais voilà. Tient le stylet au niveau de son épaule.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'adulte.
Voilà. On a fait une expérience d'archéologie expérimentale lors des Journées du patrimoine à Soissons. Et j'ai demandé à 200 personnes de faire des graffitis. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que les enfants, pour la plupart, dessinaient à hauteur d'épaule, alors que les adultes dessinent à hauteur, enfin grave, hein, à hauteur des yeux.
La gladiature est un autre sujet.
Ah oui, alors il y a trois sujets. Il y a trois sujets importants.
C'est le pain et les jeux, ça.
Je dirais les trois S. Les sous, le sport et le sexe. C'est l'essentiel. Alors le sport tient une place énorme. On a énormément de graffitis de gladiateurs. Et puis un cas d'un athlète qui s'appelle Faustus, c'est-à-dire le favorable, à Narbonne. Et alors, il y a une précision dans le dessin tout à fait extraordinaire. À Russino, on a le gladiateur qui tient son grand filet pour prendre son adversaire avec son trident. Et ça, c'est le rétière. À Vaison, il y a plusieurs exemples. Et notamment, il y avait les noms inscrits au-dessus. Et un tifoso qui est passé par là, furieux, d'une équipe adverse, à gratter les noms des personnages pour pas qu'on les lise. Donc il y a un engouement et une passion qui est tout à fait extraordinaire. Et on a un cas de pugiliste, c'est-à-dire de boxeur, à Périgueux. Et ça, c'est rare.
Et puis je crois donc à Lyon, il y a voilà. Dans la maison des maristes des sécuteurs. C'est bien
alors,
ça. Alors de quoi s'agit-il exactement?
Alors ils portent tous des noms. Il y a le rétière, le sécuteur, le mirmillon. Tout ça avec des disons des équipements différents les uns des autres. Un petit peu comme les hockeyeurs américains, vous savez, avec des casques, des
jambières,
des protections de partout. Parce qu'il fallait que le combat dure assez longtemps pour quand même que le public en ait pour son argent. Donc ils étaient bien protégés. Mais avec des protections différentes. Et ils sont surtout très grands à Lyon. Et c'est intéressant de les voir parce qu'ils sont très bien équipés. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que de temps en temps, on voit apparaître un cerf dans un coin d'une scène de gladiature. Ça, c'est pour nous rappeler que dans l'amphithéâtre, il y avait deux moments dans le spectacle. Le matin, c'était les scènes de chasse aux animaux sauvages. Et l'après-midi, les combats entre gladiateurs. Et alors, on en a des extraordinaires à Périgueux. À Périgueux, on a pu reconstituer un mur entier où on a le chasseur avec son petit chien qui a la langue pendante. Et puis, on a le filet qui permet au chasseur de rabattre le gibier. Alors, on a toute une série de cerfs qui galopent de la gauche vers la droite. Et tout au bout, on a un enclos fait de planches bien représentées. Et au-dessus, une espèce de forêt de bois, de cerf, qu'au début, on aurait pu prendre pour des arbres dénudés ou des antennes de télévision. C'est très, très amusant.
Piège.
Voilà, c'était le piège. Et donc, ça veut dire qu'on les prenait vivants, soit pour ensuite les mettre dans les chasses, soit pour autre chose.
Éventuellement pour en faire des cerfs à plans, puisque en archéologie, on a retrouvé plusieurs tombes de cerfs qui visiblement étaient, qui portaient même des morts et qui permettaient d'appeler, donc,
voilà.
Avec le brame, d'appeler d'autres cerfs
exactement.
Que l'on pouvait éventuellement chasser.
Et à Périgueux, on a même un cerf que l'on voit pris au piège comme ça. Un personnage lui tord la queue et l'autre le tient par le licou. Puis alors, on a aussi cette chose tout à fait extraordinaire, toujours à Périgueux, d'une scène de chasse là, où on voit des cerfs qui sont percés de flèches sur le dos ou sur la poitrine. Et puis, tout au bout, à droite, on a un petit bonhomme qui tient par une laisse un chien qui ressemble à un phallus, à une espèce de saucisson à pattes. Et au-dessus, on a une inscription V-A-V-A. Or, le V se prononce W, ce qui fait Wawa. Et ça, c'est absolument unique au monde, puisque en italien, aboyer se disait baubare. Ce qui a donné, d'ailleurs, en latin, je veux dire « baubare », ce qui a donné en italien l'onomatopée « baubau ». Donc là, je pense que ce chien-là parlait gallo-romain, j'imagine, puisque lui, il dit « wawa ». Et ça, c'est tout à fait étonnant.
On a récemment trouvé, donc, dans les fouilles de Nîmes, de nouveau des gladiateurs.
Oui. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on a leur nom écrit en grec. Parce que pour faire... plus nobles, on les affublait de noms grecs.
Pompéi, Narbonne, Herculanum, les bons mots circulent aussi sur les murs.
Voilà, exactement, je vous en ai cité un.
Nous avions envie de venir, nous avons encore plus envie de repartir,
voilà,
par exemple.
Exactement.
Donc ça se connaît, ça se diffuse, voilà, à travers tout l'Empire romain.
Comme un espèce de blog qui circule.
Et parmi les jeux, il y a des jeux de mots.
Alors, il y a des jeux de mots.
L'anagramme,
oui.
L'acrostiche.
Mais oui, alors l'anagramme, c'est par exemple Marie, aimée, avec un même mot, on peut faire d'autres mots. L'acrostiche, on en a un exemple. L'acrostiche, je citerai celui en italien, c'est Verdi, Vittorio Emanuele, re d'Italia. Eh bien, on a la même chose à Glanum, mais il est chrétien. Il y a marqué ictus, qui est en fait le mot qui veut dire poisson en grec. Et d'ailleurs, il y a deux poissons qui sont gravés. Et c'est les initiales de Jesus Christos Theou, Ios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Alors là, il y a une allusion au Christ, mais peut-être aussi une allusion à la pêche miraculeuse et le Christ qui envoie Pierre, pêcheur d'hommes. C'est très, très intéressant. C'est le seul que nous ayons.
Donc, un graffiti déjà assez tardif. Hein.
Voilà, vraisemblablement, mais on ne sait pas la provenance précise.
Vous avez aussi des palindromes,
oui,
notamment à Lyon.
Ah oui, à Lyon.
Il faut déjà savoir ce que c'est que
alors, un palindrome, disons, ça serait un peu comme les mots croisés, c'est-à-dire des mots qui se lisent à l'horizontale et à la verticale. Alors, il y en a un qui est très célèbre, qui a duré tout le Moyen-Âge, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, qui peut se lire à la verticale et à l'horizontale, et même au revers de bas en haut. Et donc, la traduction est difficile. Personne n'est d'accord là-dessus, mais c'est intéressant de savoir qu'on en a trouvé quand même un en Gaule.
À Lyon, donc.
C'est à bien Lyon ça. Même, évidemment, capitale des Gaules, un endroit qui est particulièrement important.
Parce que la découverte d'épaves reste rare, l'archéologie navale s'était déjà intéressée à ces petits dessins.
Alors oui, parce qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup de représentations de navires. Et on en a un tout à fait extraordinaire pour la Gaule, à Cucuron, un bateau qui fait plus d'un mètre de haut, très, très bien détaillé, avec en plus, sur le côté, des contes qui permettent de se demander si c'est des denrées qui étaient livrées dans ce bateau, qui est un bateau de commerce, mais très, très bien fait.
Alix Barbet, disons-le tout de suite, c'est sans conteste Pompéi qui détient le record des inscriptions érotiques.
Oui, bien sûr, mais c'est parce que Pompéi a été fouillé très largement, ce qui n'est pas le cas de d'autres villes, et bien entendu, étant quelque chose de particulièrement croustillant, c'est ce qui a le plus intéressé les archéologues, disons-le, et puis le grand public.
Où est-ce qu'on les trouve donc dans Pompéi ?
Dans Pompéi, on les trouve dans les lieux publics, dans la basilique, sur les colonnes, et puis bien sûr dans le lupanar, qui est très abondamment graffité, si je puis dire. Et on en trouve aussi beaucoup en Gaule, avec des choses très, très amusantes, évidemment. Les gens se vantent. À Limoges, ils donnent carrément la date à laquelle il a baisé quelqu'un, les nonnes de Mars en 235, parce qu'on a le nom des deux consuls de l'époque. Et c'est à la fois des amours hétéros et homosexuels qui sont évoqués. Alors à Périgueux, il y en a un qui dit carrément qu'il a honoré, on va dire le mot plus joli, Ossina 14 fois. Il ne dit pas en combien de temps. Un autre dit toute la nuit. Et puis, il y a une jeune femme, Dibixta, qui dit qu'elle cherche un homme et un vrai. Et donc, il y a des choses assez crues. Il se traite de pédé. Il y en a un qui traite l'autre de pédé. Il lui dit non, c'est toi. En changeant simplement une lettre, on voit très bien comment ça se passe.
C'est-à-dire que le graffiti appelle là aussi une réponse.
Exactement. Quand l'un lui dit un tel et pédéraste, donc ça disait pédicate, avec un T au bout, l'autre a raturé le T, il a mis un S, pédicace, tu. Et donc, c'est celui qui dit qu'il y est, hein, voilà, à peu près. Et on a un exemple, je ne sais pas si je peux le citer comme ça, mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire, parce que ça provient d'une femme, à Villarderia, dans un sanctuaire. « Con, tu peux pleurer toute la nuit ». Et même menacé, un cul a ravi ce qui faisait ta proie. Donc voilà très crûment exprimé la déception d'une jeune femme dont l'amant est allé voir quelqu'un ailleurs.
On se vante souvent, mais aussi on clame sa fougue à travers de cette belle phrase. Les amants sont semblables à des abeilles, ils aspirent à une vie douce comme le miel.
C'est une très jolie phrase. Malheureusement, elle n'a pas été trouvée en Gaule. Elle provient de Pompéi, mais elle est tout à fait charmante.
À Lyon, un court texte en grec clame aussi, et c'est toute la difficulté du texte, « Philantia pour toujours », alors que certains archéologues ont voulu y voir « Philantia 13 fois ».
Oui.
C'est vraiment quelque chose qui est lié à des interprétations. Et d'ailleurs, certains archéologues font parfois peut-être quelques lectures folles.
Alors justement, l'avantage, c'est d'avoir plusieurs épigraphistes qui se relisent mutuellement et qui se corrigent ou qui se suggèrent des améliorations. Parce qu'effectivement, l'imagination quelquefois prend le pouvoir, surtout lorsqu'il y a des lacunes.
Sylphalus est si fréquent donc dans ses graffitis, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il éloigne le mauvais sort.
Alors, on n'en a que deux exemples. Un à Yvonne-en-Mordagne en Suisse, un autre sur une colonne à Saint-Pierre-de-Nazac. On n'en a pas beaucoup. Les phallus sont souvent dans des endroits retirés. Et là, on ne sait pas si on est tombé dessus. À Saint-Pierre-de-Nazac, c'est amusant parce que dessous, il y a marqué Maximus. Alors, on ne sait pas si c'est le nom de la personne ou si c'est un qualificatif pour le phallus en question.
Et puis à Paris, sous l'École normale supérieure des arts décoratifs, rue Erasme, le message est peut-être encore plus cru et peut même comporter des insultes.
Oui, enfin, là, on dit... la lecture n'est pas terminée, hein, c'est encore inédit. Il est question de faire l'amour, et plus bas, il y a marqué « à la manière des chèvres ». Alors évidemment, on peut penser à une célèbre sculpture du musée de Naples où on voit un satyre faisant l'amour à une chèvre, mais enfin, il faudrait pouvoir vérifier cette lecture, évidemment.
Est-ce que l'on a, Alix Barbet, pour autant des graffitis religieux ? On parlait tout à l'heure du Christ, du poisson, quelque chose de bien connu. Est-ce que l'on a, par exemple, des représentations mythologiques ?
On n'a quasiment pas de représentation mythologique. On a quelques paysages avec peut-être la représentation d'une... d'un dieu, d'un Hermès, mais c'est très très pauvre.
Et puis peut-être, nous parlions de l'archéologie victime d'un miroir déformant, où les vestiges des nantis étaient démesurés. Nous avons sûrement beaucoup parlé des graffitis des hommes, peu des femmes.
Il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai cité celui de Villard-Derrière qui est étonnant. Sur 80 graffitis, il y en a 8 provenant de femmes.
Alix Barbet, merci beaucoup. Je rappelle donc que l'exposition « Les murs, murmures » se tient actuellement au Musée romain de Lausanne et qu'il y a un très beau catalogue qui est édité à cette occasion. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré au témoignage que nous a laissé l'homme de Néandertal. Le Salon Noir était réalisé par Brigitte Aléo à la technique Ariane Herbé. Le Salon Noir est une coproduction France Culture sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie Archétis du ministère de la Culture. Les sciences vous donnent rendez-vous dès demain à 14h, où vous pourrez retrouver « Science et conscience » de Philippe Petit, mais dans quelques instants à 15h, à plus d'un titre par Toufik Hakem et Jacques Munier.